nous inspirer de belles traces pour nous faire rêver. Oh, 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 de belles traces.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils me transmettent leur message, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive.
Mon invité du jour a pratiqué avec brio un sport très difficile qui demande beaucoup d'investissement et d'entraînement. Ah, il en a mangé des longueurs de bassin. Même si lui, il regardait plutôt le plafond ou le ciel plutôt que les carreaux au fond de la piscine. Aujourd'hui, je le vois profiter d'autres sports plutôt outdoor, et notamment le golf, où nous nous retrouvons quelquefois. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur l'immense Camille Lacour. Salut Camille.
Salut, comment ça va?
Ça va et toi?
Très bien.
Vraiment ravie de t'avoir au micro de Belle Trace. Je parlais du golf. Pourquoi le golf?
Par hasard, ça a commencé un pote qui était sur le practice, je l'ai rejoint pour boire un café, il m'a demandé si je voulais taper quelques balles, j'ai kiffé, j'en ai tapé 2 sauts et à partir de là, j'ai mis une photo sur Instagram et il y a YouGolf qui m'a contacté et qui m'a demandé d'être le parrain de leur marque et à partir de là, j'ai commencé gentiment, il y a Titleist aussi qui m'a fait un super prix pour avoir des clubs à ma taille. Et à partir de là, j'avais pris le doigt dans l'engrenage et ça m'a arraché tout le bras.
Mais alors justement, tu as des clubs rallongés de combien?
Un inch et demi.
Ah oui, quand même.
Ouais, oh. Je fais 2 mètres quand même.
Et ouais.
la balle, elle est basse.
Et alors, ces sensations-là qui sont complètement différentes de la natation, mais est-ce que tu arrives à trouver quelques petites choses qui sont similaires?
Alors au début, j'avais vraiment envie de bien faire, j'étais vraiment concentré, un peu la même approche que j'avais à la natation. Et très vite, j'ai essayé de changer. Alors j'essaye toujours de progresser, j'essaye de faire des meilleurs coups, mais par contre, je me concentre vraiment sur les bons coups de ma partie, parce que je suis 25 dans un handicap, donc il y en a quelques-unes qui partent dans la forêt ou dans l'eau.
Ouais, et, c'est pas fini donc, en plus. Hein.
Non, je sais, non. Et donc, je préfère finir une partie en étant toujours content des bons coups que partir avec une certaine frustration. Donc c'est vraiment une philosophie que je me suis mis sur le golf où voilà, je vois tout le temps le verre à moitié plein et je kiffe ce sport. J'ai pas envie de devenir un champion, donc on progressera quand on aura le temps de progresser. Et puis c'est vraiment un kiff, une balade en pleine nature. Et je pense que c'est ce que j'aime aussi dans le golf, c'est de pouvoir m'évader. J'ai vécu 6 ans à Paris, là je viens de m'installer à Marseille.
Ah oui.
Et c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi à Paris, de sortir un peu du boulot, dodo, métro, et d'aller faire du golf, ça me faisait beaucoup de bien.
Ouais, parce qu'en plus, pendant ta carrière, les nageurs, de ce que je sais quand même, je suis pas mal des petites disciplines, mais les nageurs, c'était muscu et natation et piscine,
C'est ça.
essentiellement,
En début de saison, on faisait pas mal de vélo, nous, à
hein.
Marseille.
Ah, d'accord.
Quand j'étais à Font-Romeu, parce que j'ai fait 20 ans à Font-Romeu au sport-études, on faisait beaucoup de ski de fond aussi pendant la période hivernale. Bon, je faisais un peu de ski alpin, même si
Bien, c'est bien.
c'était pas trop validé par le coach, mais je l'ai croisé deux trois fois sur les pistes, j'ai
Ah.
baissé la tête.
Mais
Mais
pourtant,
voilà, le
même en
ski.
baissant la tête, on te voit.
Ouais, ouais, le ski de fond, on en a fait beaucoup pendant les préparations et du vélo. Ça nous évitait de faire voilà, tout ce qui était aéro, c'était bien de le faire hors de l'eau et ça changeait un petit peu.
Ouais, mais sinon, c'est vrai que c'était quand même très centré sur l'eau et la muscu, quoi. Donc,
Ouais, bah, nous on n'est pas terrien quoi. Si on se met à courir, maintenant je cours un petit peu. Les premiers mois où j'ai commencé à courir, ça a été un enfer, quoi. J'étais chez le kiné 2 fois par semaine, alors que je m'étais promis de ne plus y aller, obligé de faire des semelles, enfin réapprendre, parce que bah, nous, on est en apesanteur, donc bah, sur du dur, c'est différent. Donc voilà, c'est une nouvelle vie, mais c'est cool aussi.
Ouais. Et tu nages encore un petit peu?
Plus du tout.
Ah ouais, c'est ça,
C'est ça, hein. Non, mais là, maintenant que je suis à Marseille, je vais me commander une petite combinaison pour aller en mer. Et je pense que j'irai nager en mer parce que c'est quand même une sensation différente. Et là, c'est vraiment le rapport à la nature que j'aime, qu'on peut retrouver dans le golf. Mais dans une piscine, il y avait toujours ce rapport avec la performance, en fait.
oui.
Quand je suis dans une piscine, bah, j'ai l'impression d'être un pilote de Formule 1 qui conduit une Twingo maintenant parce que mon corps, c'est plus une Formule 1. Et franchement, je m'ennuie très vite, quoi.
Ah, mais c'est clairement ça. Enfin, moi, tu vois, le ski, c'est passer autour des portes. Et en fait, ça, quand j'ai arrêté, je veux plus passer autour des portes parce que, comme tu dis, tu te rends trop compte de tout ce que tu as perdu. En fait, que
Ah,
c'est tout
c'est
frais.
trop violent.
Et
Et
les
nous, c'est en
sensations,
plus.
c'est terrible.
Ouais, vous, encore, chaque parcours, il change, mais nous, la longueur, elle est faite tout le temps 50 mètres, donc on sait exactement combien on faisait avec l'effort qu'on faisait. Et quand là, on fait le même effort et qu'on rajoute 5-6 secondes par 50, c'est d'une violence.
Ouais, mais nous, tu sais, les appuis, si on appuie trop
Ouais.
tard, on a des sensations terribles. Et en fait, c'est un peu comme toi, moi. Alors, toi, ça va être natation en mer, comment dire, en eau libre. Mais moi, c'est la poudreuse, quoi. Donc, tu vois, on retrouve aussi, pour changer, pour pas toujours être pas trop loin, mais changer quand même de ne pas avoir les mêmes repères.
Comme je comprends. Qu'est-ce que c'est bon, la poudreuse.
Ouais.
Ah là là. Cette impression de voler, ça me rappelle beaucoup le surf.
Ouais.
J'adore.
J'espère qu'on fera quelques belles traces ensemble à un moment.
Ah ben avec grand plaisir.
Bon alors, on parle de natation. Je crois que tu as commencé à Narbonne, c'est ça? Assez tôt?
Alors non, je suis né à Narbonne, mais j'ai commencé à Font-Romeu.
Ah, à Font-Romeu. Ah oui, mais oui,
Ouais.
parce que tu connais très bien Martin Fourcade d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. J'étais
Voilà.
dans la classe avec Simon, avec son frère. Qui
D'accord.
a été aussi le meilleur biathlète du monde pendant une
Oui.
saison. Donc,
Ouais.
ouais, on était dans les mêmes classes sportives. Donc, je suis arrivé à Font-Romeu, j'avais 1 an, parce que mes parents se sont rencontrés à Paris. Je suis né à Narbonne, je suis remonté à Paris et j'avais des bronchites asthmatiformes à Paris. Et donc, ils ont demandé leur mutation en altitude pour pas avoir d'acariens. Et je me suis retrouvé à Font-Romeu et à partir de 3 ans, je me suis retrouvé dans la piscine et j'ai jamais trop arrêté.
Ah ouais. Et t'as tout de suite aimé ça aussi ou alors c'était parce que là tu as été du coup pour soigner ton souffle quoi quelque part pour ta santé quand tu
Ouais,
étais
alors je suis monté à Font-Romeu pour la santé, mais j'étais vraiment bébé.
ouais.
Après, j'ai commencé la natation pour le plaisir, vraiment un peu par hasard au début, parce que ma mère a accompagné nos voisins alors que moi j'étais trop petit pour intégrer le club. Et chaque fois qu'elle avait le dos tourné, a priori, je voulais absolument aller dans la piscine. Et l'entraîneur du club m'a mis en slip et a dit c'est bon, laissez-le plonger, il a trop envie d'y aller. Et j'ai plongé dans le grand bassin, je me suis accroché à la ligne, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, bon, je ne me rappelle pas, mais. Et à 3 ans, bah, il m'a pris dans le club et c'est comme ça que cette aventure a commencé.
Ah, c'est génial.
Donc j'ai
Et
toujours aimé l'eau, ouais.
ouais,
J'ai toujours
t'as
adoré
toujours aimé l'eau. Ouais. Et comment au début tu fais j'imagine tu fais un peu toutes les nages, enfin peut-être pas toutes les nages parce qu'il y a certaines nages comme le papillon, c'est quand même pas simple, je pense quand t'es petit. Comment ça se passe?
Très vite, à partir de 8-10 ans, on commence à faire toutes les nages. Donc, après, on les perfectionne, mais on nage toujours toutes les nages.
D'accord.
Même quand on est pro et qu'on est spécialisé dans une nage, on fait vraiment tout. Parce que sinon, c'est trop compliqué de faire tout le temps la même nage, quoi. On dérègle la nage de compétition, donc on change beaucoup.
Et comment petit à petit, tu t'es spécialisé à un moment sur le dos ou,
Ouais, tout petit. Alors, j'étais aussi fort en papillon. J'avais des capacités en papillon aussi. Mais j'étais vraiment plus à l'aise en dos. Donc, je pense un peu comme. Comme en ski, bon, toi, t'es le contre-exemple, mais si on est mieux en slalom qu'en super G ou le contraire, on va naturellement là où on est les meilleurs. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans le dos. Donc, je me suis spécialisé là-dedans et c'est là-bas où, c'est dans ce tonnage où ma souplesse et mes aptitudes physiques aidaient le plus.
D'accord. Et parce que quand tu parles de souplesse, c'est aussi les épaules. Moi, je fais des mouvements. Ouais, c'est vrai que faut avoir une laxité des épaules qui est quand même importante.
Ouais, alors
Pas
plus
que
que
des
les
épaules,
épaules, parce
pardon.
qu'on les tourne les épaules, mais surtout les coudes. Aller
Les coudes.
chercher,
Ah
donc
oui.
vraiment chercher
Ah oui.
l'eau vraiment côté comme ça. Et c'est vrai que cette laxité, je l'avais aussi sur les jambes. On a vraiment les pieds-pointes de danseurs. On est là-dessus, on est vraiment solide. Donc voilà, c'est toutes ces petits trucs qui ont fait que j'avais ce petit quelque chose qui fait que ça pouvait marcher.
D'accord, ah ouais, c'est génial. Et quelles étaient, enfin, quelles étaient, parce que du coup tu nages moins, mais quelles étaient tes sensations vraiment dans l'eau? À la vitesse où tu vas, toi, tu arrives à avoir des sensations de glisse et tu sentais tout de suite quand tu étais bien?
Instantanément. En compétition, au bout de 3 mouvements, je savais si la course allait bien se passer ou pas.
Ouais.
Il y a un rythme qui est vraiment important dans la natation. Nous, en natation, on appelle ça la fréquence, mais c'est en gros le temps qu'on met quand on met la main dans l'eau, on fait un mouvement et qu'on remet la main dans l'eau. Et en fait, à 5 centièmes près, ça change tout le tempo et toute la dynamique. Alors, de mémoire, pour faire un 100 mètres, je mettais. Il fallait que je parte sur un tempo de 1,23, donc 1 seconde 23 chaque mouvement. Et si je partais à 1,35, j'étais trop lent. Et si je partais en dessous d'un point 20, je finissais pas le 100 mètres. Donc c'était vraiment de l'horlogerie suisse, quoi. C'était des répétitions à l'entraînement, vraiment, ça se jouait au centième. Et c'est ça qui est excitant dans la natation, c'est que c'est vraiment des mini détails et on compte pas vraiment les carreaux ou on regarde pas vraiment les nuages.
Ouais, bien
On est
sûr.
vraiment. Concentré sur l'efficacité du mouvement, sur le gainage du corps, parce que la natation, c'est un sport fantastique où il y a toutes les dimensions, quoi. Il y a le haut, le bas, à droite, à gauche, profondeur, machin. Et donc, c'est vraiment un mélange de tout, la performance, qui est à la fois super complexe et super excitante à aller chercher, quoi.
Ouais, et puis moi je suis souvent impressionnée parce que maintenant c'est vrai que, enfin, non, déjà avant, mais il y avait des caméras sous l'eau et entre le départ et les coulées. C'est énorme parce que ce sont aussi des mouvements différents.
Ouais, c'est les mouvements subaquatiques sont vraiment importants. En plus, bon, maintenant on a le droit qu'à 15 mètres sous l'eau, mais ça représente quand même 30% de la course. Donc il faut vraiment être performant là-dessus. C'est des choses qui se travaillent à l'entraînement. Voilà, quand on voit les compétitions, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Dessous, il y a des heures et des heures d'entraînement où c'est épuisant de faire 15 mètres sous l'eau, mais à force, le corps s'y habitue et en compétition, on arrive à être performant.
Ouais. Ah ouais, mais c'est impressionnant parce que cette glisse, et encore, je pense que c'est un peu comme nous aussi, quand on est enfin, les skieurs, on ne se rend pas compte trop de la pente, de la vitesse à la télé, ça écrase. Vous aussi, quoi, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les sports. Tant que tu n'es pas à côté, tu ne te rends pas compte de la glisse et de la vitesse, quoi.
Surtout à côté dans l'eau, parce que hors de l'eau, la natation, c'est pas un sport qui est vraiment spectaculaire, quoi. Même les crawlers qui font 50 mètres en 21 secondes, c'est hallucinant. Mais quand on est à côté, en marchant très vite, on peut les suivre. Alors que quand on est dans l'eau, nous à Marseille, on avait la spécificité de nager avec le public. Donc, on avait 3 lignes ou 4 lignes où on s'entraînait. Et à côté de nous, il y avait des gens qui s'entraînaient pour des triathlons ou des trucs comme ça. Et on voyait leur tête. Ils essayaient de faire la course avec nous pendant 15 mètres, alors que nous, on était sur des séries de 200. Et on les voyait. Ils étaient trop contents de pouvoir se
Oui.
comparer à nous. Mais c'était clairement. Enfin, ils voyaient aussi la différence de niveau qui est hallucinant. Un peu comme si on a la chance de croiser un vrai athlète quand on fait notre footing. On a l'impression que c'est un autre monde et que c'est même inhumain, mais à force d'heures et d'entraînement, c'est possible.
Ben oui, parce qu'en fait, dans une compétition, dans les lignes d'eau, à quelques dixièmes, voire éventuellement secondes près, ben tout le monde va à peu près à la même vitesse. Donc, en fait, tu te
C'est
rends pas
ça.
compte de la différence.
Comme en athlétisme ou un peu comme
Oui.
au ski d'ailleurs, voilà.
Oui.
Et c'est vrai que quand on skie à côté de vrais skieurs, J'ai eu la chance de skier à côté de Nils Allègre, qui est
Ah oui,
fan de l'équipe de
chevalier.
France, et qui skiait, qui m'expliquait un peu baisser mes fesses et tout pour faire des vraies lignes. Et donc j'ai un bon niveau de ski quand même. J'ai failli être passer mon monitorat.
Ah ouais.
Donc voilà, je sais skier. Bah là, je skie avec lui. Je m'arrêtais toutes les 45 secondes et je ne pouvais plus skier comme il faisait, quoi. Je me mettais droit, je faisais 15 secondes tout droit où je me détendais les jambes et j'essayais de repartir sur les courbes. Mais ouais, non, c'est un autre sport. Et puis la vitesse qu'ils arrivent à prendre, c'est incroyable, quoi. Et dans une piscine, bah, c'est pareil, quoi.
Ouais, c'est clair. Et alors, quand tu as commencé, est-ce que tu as eu des champions qui t'ont inspiré? On a souvent commencé parce qu'on a été inspiré par des champions, ou alors c'est parce que tu as commencé à gagner les courses régionales, les courses. Comment ça
J'ai
s'est passé?
jamais été dans les. Alors, j'ai toujours été dans le haut du tableau. J'ai souvent été deuxième ou troisième dans ma jeunesse, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un ou deux mecs qui me battaient. Et j'ai grandi très très vite et j'ai pas grossi beaucoup. Donc jusqu'à mes 20, 22 ans, j'étais vraiment très très grand et très très maigre. Et dans une piscine, bah, c'était compliqué de tracter tout ça. Donc j'ai jamais été très très fort. J'ai fait mes premiers championnats de France. J'ai pas fait les championnats de France minimes. J'ai pas fait les premiers championnats de France cadets. J'ai intégré ces championnats de France que la deuxième année. Donc j'ai fait vraiment de la natation parce que ça me plaisait, quoi. J'étais avec un super groupe de potes. J'avais la chance d'être en section sportive et de vivre une expérience qui était géniale avec eux. Mais c'est vrai que la performance est arrivée bien plus tard, à partir de 16-17 ans. J'ai commencé à être dans les meilleurs Français. Et à partir de 20 ans, il y a eu vraiment quelques déclics où je suis parti avec Philippe Lucas, où j'ai vraiment décidé de tester. Mais jusqu'à 20 ans, clairement, je nageais pas pour être un champion. Mais par contre, j'ai eu la chance de côtoyer Alexander Popov, qui est pour moi une des légendes de la natation mondiale, qui était russe et qui avait la spécificité de nager parfaitement bien, quoi. C'était un peu le Federer de la natation. Quand on le voyait
Ah
nager, on
ouais.
avait l'impression que c'était super simple.
Je me rappelle quand il était en crawl, là, il faisait, t'as l'impression que s'il faisait enfin deux mouvements et en fait il y avait, tu voyais la glisse entre
C'est
les deux quoi.
ça. C'était
Ouais.
un des rares à rentrer sa main et la sortir plus loin que son point d'entrée.
Ah oui.
Donc en fait, ça veut dire qu'il tractait tellement fort que quand il rentrait sa main, il avançait quand même. Enfin, c'était incroyable à voir nager. Et quand il s'entraînait à Foreme, moi je devais avoir une quinzaine d'années, il nous demandait de tenir les élastiques pour faire de la contre-résistance ou de l'aider sur des exercices de muscu. Et quand on aide un champion olympique, champion du monde et qu'on a 15 ans, sans forcément vouloir avoir le même parcours que lui, parce qu'à ce moment-là, c'est même pas ce qui me faisait rêver, c'était juste. On avait l'impression d'avoir un rôle dans sa préparation et ça, j'ai trouvé ça génial. Et quand, à mon tour, j'ai eu un niveau qui faisait rêver les enfants, bah, dès que j'avais l'occasion, j'essayais de les intégrer à l'entraînement parce que je trouvais que c'était fantastique.
Ouais. Et bah justement, ces jeunes, t'as des, tu leur donnais aussi, à part les conseils techniques, enfin d'ailleurs, tu leur donnais peut-être des conseils techniques, mais aussi d'autres conseils, ou est-ce que tu as des questions souvent qui reviennent parce qu'aujourd'hui, des fois, on rencontre des jeunes qui disent, moi, je veux être champion d'eux. Et souvent, on leur dit, ouais, mais tu sais, avant d'être champion, sois
Ouais,
déjà
il y a toujours.
nageur ou sois déjà skieur, et puis après, champion, on verra, quoi, tu vois.
C'est ça. Non, bah moi, chaque fois, je leur dis, quand on me dit je veux être champion, je dis déjà régale-toi. Parce que il faut que ce soit ton rêve. Quand quelqu'un de 10 ans me dit je veux être champion olympique, c'est tôt pour penser à ça. Alors, tu as le droit d'y croire, tu as le droit de rêver de ça. Mais par contre, prends les choses, chaque chose en son temps. Commence par profiter du club, après tu vas rentrer en section sportive si tu as le niveau et tu vas progresser. Donc, mais continue à garder cette flamme et continue à te régaler parce que bah, on a de la chance de faire un travail qui est notre passion. Et si ça devient juste un travail et qu'on oublie ce côté passion, bah, d'une, il n'y aura pas de résultat et de deux, ça va devenir tellement dur, c'est insupportable à vivre. Donc voilà, c'est la petite chose que je leur dis. Et la deuxième question qui revient souvent, c'est comment gérer le stress? Et là-dessus, je leur dis que il n'y a aucune raison de stresser parce que c'est un hobby, c'est un sport. Et que même si on fait une contre-performance, les parents, ils seront toujours là, les amis seront toujours ici, ils seront toujours là pour faire un câlin si on est triste. Et jamais personne ne sera plus triste que vous quand vous faites une contre-perf. Et jamais personne ne sera aussi heureux que vous quand vous allez gagner. Donc détendez-vous par rapport à ça. Et je dis, ça met du temps à se détendre, mais ton entraîneur, s'il n'est pas content après une course, c'est parce qu'il est déçu pour toi. Et il ne faut pas avoir peur de cette réaction. Et c'est vraiment ce que j'essaye de prôner. Et j'espère que aussi des entraîneurs commence à changer ça, parce que bah, le management par la peur, quand on a 15 ans, c'est quand même assez effrayant, et on le voit beaucoup trop souvent sur le bord du bassin, et je sais dans d'autres sports aussi. Donc voilà, je crois que pour être champion, c'est d'abord une conviction personnelle, et le coach, ça sert à rien qu'il mette de la pression supplémentaire, parce que de toute façon, si le nageur, enfin si le sportif n'en a pas envie, ça ne marchera pas, quoi.
Ah, c'est marrant parce que tu dis ça, parce que quand même, tu disais à un moment, j'ai été entraînée par Philippe Lucas, qui a une image, alors une image, hein, je parle, une image quand même de quelqu'un qui est justement le management. Enfin, on a vu quelques reportages des fois, que ce soit à Laure notamment ou à Amaury que tu voyais. Alors, est-ce que c'est une image ou est-ce qu'il a forcé un peu le trait? Mais tu as l'impression que c'était quand même, il parlait justement, comme tu dis, un peu dur et.
Ouais, bah je pense que alors c'est clairement une image. C'est clairement une image qui se donnait, parce que on savait qu'on allait passer une mauvaise journée quand on voyait les caméras. Il devenait le personnage des guignols, quoi. Il devenait sa marionnette, sa propre caricature, et je pense que l'image qu'il a créée l'a dépassé. Quand il a vu que ce management par la peur était repris par des jeunes entraîneurs et qu'il pensait que c'était ça la solution, il a vite changé. Et aujourd'hui, quand on le regarde, il est très proche de ses nageurs. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Aurélie Muller a été disqualifiée aux Jeux Olympiques, il est presque en pleurs. Il est vraiment proche de sa nageuse, il la prend dans les bras. Et c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça, sauf qu'il s'est créé une image, parce qu'à un moment donné, bah, médiatiquement, il y avait une place à prendre. Mais humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je me suis entraîné 2 ans avec lui. Et 2 ans après, je fais quatrième aux Jeux Olympiques, donc je perds. Et lui, il n'était même pas avec l'équipe de France. Il a fait tout le tour du bassin pour mettre une main sur l'épaule. Et ça, je vous assure que c'est quelque chose qui, humainement, m'a fait du bien. Et c'est un geste qui amène énormément de respect envers lui.
Ouais, non, mais ça c'est sûr. Et puis de toute façon, là, quelque part, les résultats continuent à parler pour lui, quoi. Si c'est vraiment au bout d'un moment,
Ouais.
ça marche
Et
plus.
surtout, il n'y a aucun nageur qui a été avec lui qui parle mal de lui. C'est-à-dire que tous ces nageurs disent que c'était une expérience extraordinaire. Alors c'est vrai qu'avec Philippe, on nageait énormément. Il m'est arrivé de nager 100 bandes par semaine. C'est un enfer. Mais par contre, humainement, c'est quelqu'un qui est vraiment droit, et qui est vrai.
Ah ouais, c'est clair. Et attends, qu'est-ce que j'avais parlé? Il y a tellement de choses de questions à poser. Si on revient sur les plus grands moments de ta carrière, est-ce que ça se résume sur les victoires ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres moments?
Ah, ouais, c'est dur comme question
Eh
là,
ouais, je sais.
en une minute comme ça. Alors je vais pas répondre à ta question, je vais répondre à ma question. Je vais dire le plus beau moment de ma carrière.
Voilà.
Le plus beau, c'était la dernière course.
Une
Mon
victoire,
dernier
hein.
pardon?
Une victoire en plus, non?
Ouais, mon dernier titre de champion du monde en 2017. Et c'est la première fois, en fait, que tant que je gagne cette course, je sais que c'est fini, je l'avais annoncé déjà 2 ans en avant. Et quand je monte sur ce podium pendant la Marseillaise, j'ai l'impression qu'on est 50 sur le podium. Il y a évidemment mes parents, ma famille, mes amis, tous ceux qui sont dans l'ombre, grâce à qui bah, tout cela est devenu possible. Et c'est la première fois que, quand je descends du podium, je me retourne. C'est-à-dire que je regarde mon chemin et que je me dis pas, OK, comment je fais pour regagner dans une semaine, ou comment je fais pour regagner l'an prochain. C'est la première fois où je me dis, putain, quand même, ce que j'ai fait, c'est beau. Enfin, ce qu'on a fait, parce que je n'étais pas le seul, c'était moi qui était dans la lumière. Mais par contre, toute cette aventure humaine qui a été vécue, elle était extraordinaire. Et sur cette dernière course, ça a été vraiment fort. Et après, les derniers moments, les moments les plus beaux d'une carrière, je crois que c'est les moments où on se sent dans une équipe super qui sublime, quoi, où on a l'impression d'être en famille, alors que c'est juste des amis. Et c'est ça qui est le plus beau. Je crois que c'est cette aventure humaine qui est fantastique. Quand ça va pas, ou quand ça va, ou quand on tend une main, ou quand on nous tend une main, c'est des moments qui sont compliqués à expliquer, mais c'est des moments où on se sent bien, et on sait pourquoi on fait ça.
Ouais, c'est clair. Et alors, avant quand tu es en préparation le matin de la course, et puis cette fameuse chambre d'appel qui fait un peu rêver ou pas d'ailleurs certaines personnes à l'extérieur, est-ce que toi, c'était des moments que tu as bien vécu, que tu préparais ou que quelquefois tu as subi? D'ailleurs, ça a dû certainement évoluer dans ta carrière.
Alors non, j'ai jamais subi. J'ai eu la chance d'avoir peut-être des nageurs aussi qui étaient avec moi dans le groupe, qui étaient plus grands et qui avaient une certaine confiance en eux et qui m'ont appris ça, en tout cas à dégager ça en chambre d'appel. Et c'est un des rares moments qui me manque vraiment en compétition. Quand je regarde, là aujourd'hui j'ai la chance de commenter les championnats d'Europe et les championnats du monde et aussi les jeux normalement de natation. Et alors les voir nager, c'est vrai que c'est un moment extraordinaire, mais c'est vrai que ce moment de chambre d'appel, c'est un moment qui est en off en plus, qui est rarement filmé. On voit de temps en temps 2-3 secondes, mais c'est une tension extraordinaire. On a l'impression que si on allume une allumette à ce moment-là, il y a tout qui explose. Et dans cette salle, on sait qu'on est 8, qu'il va y avoir un gagnant, 7 perdants. Et il y en a qui jouent, il y en a qui essayent de rouler des mécaniques, il y en a qui
Ouais,
sont
c'est
dans
ça.
leur
Ouais.
bulle et tout. Et ça, j'adorais ça. Alors moi, j'essayais de ne pas déranger ceux qui étaient dans leur bulle, je respectais ça.
Ouais.
Et par contre, s'il y en avait qui jouaient avec moi, j'adorais
Oh.
jouer. J'adorais les déstabiliser. Ouais, c'était vraiment quelque
Excellent.
chose qui. Ouais, j'étais vraiment en mode un peu pervers narcissique, quoi. Je savais exactement où appuyer. C'était horrible. Enfin, j'aime bien raconter la petite anecdote, mais avec Jérémy Stravus, c'était mon meilleur ennemi. On a partagé énormément de choses ensemble. Et avant de partir, avant chaque course, je mettais une main sur l'épaule et je disais, allez. Tu montes avec moi sur le podium et je te partage ma Marseillaise, quoi. C'était tout le temps ma Marseillaise. C'était toujours. Ah, c'est horrible quand j'en parle. J'ai presque honte, mais bon, ça faisait partie de la
Et c'est ce qui
compète.
s'est passé en plus.
Ah, bah, tout le temps. Et bah, une fois, on fait ex aequo, donc on a eu
Oui,
chacun notre Marseillaise. Mais par contre, à chaque fois, c'est arrivé de nombreuses fois où c'est moi qui gagne et que lui soit sur le podium. Et cet ascendant psychologique, c'est vrai que j'ai travaillé pour le garder l'ascendant sur lui. Et c'est quelque chose que j'aimais bien faire. C'était assez perverse, mais pour moi, ça faisait partie de la course.
bah, oui, en même temps, c'est, alors je ne veux pas dire que c'est un duel, mais dans l'eau, vous êtes, enfin, le but, quelque part, le temps, il est important, mais le but, c'est d'être devant les autres, quoi.
C'est vrai. Et moi, pour moi, la compète commençait justement dans ce champ d'appel, donc j'ai jamais dérangé, j'ai jamais enfin, gêner un nageur pendant l'échauffement pour le déstabiliser et tout. Non, j'avais beaucoup de respect pour mes adversaires, mais dès qu'on entrait en chambre d'appel, ça y est, on était en position et à partir de là, tous les coups étaient permis et me suis déjà amusé à déstabiliser des adversaires.
Ouais. Et t'avais un casque de musique?
Non, et j'étais. Non, mes premières compétitions, j'avais le casque de musique et je me suis rendu compte que tout le monde en avait. Et je me suis dit que je voulais faire différent, en fait. J'ai toujours été. J'aimais avoir un point que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire que je me disais, bah, si je n'ai pas la musique, peut-être eux, ils vont se dire, putain, lui, il arrive à se concentrer sans musique. Et donc, bah, peut-être, je me dis, peut-être que inconsciemment, ils se disent, putain, il a un truc de plus que moi, je n'ai pas. Et ça, dès que je pouvais en trouver, alors je ne suis pas sûr que ça leur à eux, c'était ce qu'ils pensaient, mais par contre, moi, j'avais l'impression que c'était le cas, donc ça m'a remporté un point positif pour moi. Et j'ai toujours aimé faire ça, j'ai toujours aimé être un peu en décalage avec tout ce qui se faisait sur ça.
Et est-ce que tu avais aussi un rituel avant course, c'est-à-dire avant ben, alors maintenant, mais toi aussi déjà, il y avait les nageurs, on voit arriver avec le drapeau, enfin ça dépend des endroits,
Ouais.
le nom, mais en tout cas pour t'installer, j'allais dire derrière le plot, mais non, toi c'était dans l'eau
Et on s'est installé derrière le plot quand même avant la
voilà,
présentation.
ouais, c'est derrière le plot. Est-ce que tu avais aussi un rituel là-dessus ou
Non, le
oui,
rituel,
certainement.
il était plus avant, en amont, sur toute la compétition, sur toute la journée. Vraiment, c'était très, très timé. Alors, pas forcément à la minute près, c'était plus au feeling. Mais par contre, j'aimais vraiment préparer ça, parce que pour moi, le stress négatif vient de ce qu'on n'a pas préparé. Et tout l'avant de la course, c'était vraiment timé. Je savais qu'une demi-heure avant, il fallait que je parte, que je sois déjà préparé. 45 minutes ou 50 minutes avant la course, je sortais du bassin. 1h20 avant la course, je plongeais dans le bassin d'échauffement. Avant ça, je faisais mon échauffement à sec. Donc tout ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais sur mon petit téléphone, j'avais les horaires à laquelle je vais être dans l'eau. Bon, après, des fois, ça variait selon le sentiment que j'avais, si je sentais que j'avais besoin de plus d'échauffement à sec et moins dans l'eau, j'augmentais mon échauffement à sec et je raccourcissais l'autre ou le contraire. Donc voilà, c'était évolutif. Mais c'était le seul rituel que je me faisais, c'était vraiment cette préparation. Et après, quand je rentrais sur le bord du bassin, à la fin, quand j'ai eu ma fille et qu'elle me regardait à la télé ou quand elle était dans les gradins, on avait des gestes. Alors, une fois, c'était ça. Une fois, je devais taper trois fois dans les mains et faire coucou avec la main gauche. Enfin, c'était
Ah,
des
excellent.
trucs qu'elle me disait et elle savait que c'était pour elle. Et moi, ça me plaisait de me dire que dans les gradins, tout en étant super concentré, j'avais juste ça à penser. Après, je restais dans ma course. Ça lui faisait plaisir de voir que je le faisais.
Ah, génial.
Les petits trucs sympas ou qui m'amenaient une bonne énergie.
D'accord. Ah, c'est super. Et avec est-ce qu'avec ton coach aussi, vous aviez ou est-ce que j'ai l'impression que tu étais quand même très autonome. Est-ce que vous aviez encore des échanges, des phrases ou des mots que vous disiez, ou alors c'était justement, comme tu dis, tu savais ce que tu avais à faire et tu avais plus, quelque part, tu n'avais plus besoin de lui.
Ouais, le but c'est de plus avoir besoin de son coach le jour de la course, hein, c'est
Oui.
clairement ça. Alors, lui, il est évidemment tout le temps là, il est là sur l'échauffement, il voit si techniquement tout se passe bien, s'il voit qu'il y a quelques trucs à régler, il met deux trois clés de met deux trois tours de clé pour régler ça. Mais si tout le travail a été fait en amont, normalement il n'y a pas de raison. Et le seul truc que je demandais à mon coach, c'était de m'amener un café quand on arrivait sur le bord du bassin. J'arrivais environ 2 heures, 2 heures et quart avant sur le bord du bassin et j'avais un moment où je restais habillé, où je discutais. C'était mon moment social. Et là, je demandais à mon coach d'aller me chercher un café et c'était le moment où on discutait des adversaires, des trucs, sans prise de tête, sans performance. Et après, je me mettais dans une bulle où là, par contre, je devenais vraiment celui qui allait devenir champion. Et pour devenir champion, pour moi, il fallait. Faut être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. C'est pas forcément ma philosophie dans la vie, mais par contre, quand je nageais, je me mettais dans cette armure d'arrogance et d'extrême arrogance même, pour performer et pour être le meilleur.
Ouais, c'est clair. Bah, tu as été souvent le meilleur, donc en plus.
Ouais, mais ouais. Oui, de
Et...
toute façon,
Bah, oui.
pour chercher un titre mondial, européen et tout ça, il faut vraiment avoir un truc de plus, avoir plus envie que les autres. Et pour avoir plus envie, il faut. Faut peut-être partir un peu dans des endroits un peu chelous, genre sur l'ego, sur le truc. Alors, tant que ça reste que le moment de la course, ça va, mais c'est vrai que moi, je voyais vraiment, j'avais l'impression d'être un peu schizo quand j'arrivais en compète. Je suis le mec super sympa, je parlais avec tout le monde, et dès que hop, je finissais mon café et que je le posais, que je mettais ma serviette par terre pour faire mon échauffement à sec, après là, il n'y avait plus personne, quoi. J'étais imbuvable et j'aimais dégager une certaine force, une certaine puissance qui je savais. Pouvait me servir sur l'après, par
Ah
rapport à mes
ouais,
amis.
d'accord. Mais alors justement, tout à l'heure, tu le disais, tu fais 2 mètres, donc tu ne passes pas inaperçu. Comment après tu as géré cette notoriété? Parce que en plus, après, tu as eu des partenaires, et tu as toujours des partenaires d'ailleurs dans le luxe, sur l'image. Comment tu l'as géré? Comment tu l'as vécu tout ça derrière?
Alors au début, je l'ai subi.
Oui.
Parce que ça arri c'est arrivé d'un coup, c'était en 2010, j'étais absolument pas connu. L'année d'avant, j'avais fait cinquième au championnat du monde. Et l'année d'après, je fais triple champion d'Europe. Et mon papa, c'est quelqu'un de très calme, très posé. C'est un peu un taiseux, il parle peu, quoi. Et le dimanche, on allait faire la fête, parce que en fin de championnat, il y a toujours une grosse fête. Et j'ai mes parents au téléphone, et mon père prend le téléphone et dit « Tu vas faire quoi? » Je dis « Je vais sortir, on va sortir avec les potes. » Et il me dit « Profite de ta dernière soirée, ta vie va changer. » Et mon père qui me dit ça, j'ai raccroché, j'étais avec Fabien Gillot en chambre et je dis, oh, mon père, il vient de me dire ça, c'est violent parce que je sais que ces mots, ils sont puissants et du coup, ça résonne fort, quoi. Et Fabien qui rigole et qui me dit, mais ça fait 3 jours que je te dis que ta vie va changer. Et je dis, bon, on verra vraiment ce qui va se passer, quoi. On est allé faire la fête et le lendemain, quand on arrive à l'aéroport, je me rappelle d'une foule de journalistes qui, pour moi, étaient impossibles en natation. On voyait que ça avec les footballeurs à l'aéroport, il y avait vraiment. À 360 degrés autour de moi, il y avait 10 mètres de journalistes. Donc, peu importe où je tournais, il y avait 10 mètres de journalistes, des caméras, des micros et tout. Et là, heureusement que j'étais grand, parce que sinon, je me serais senti claustrophobe avec un peu la cuite de la veille, dormi 2 heures, machin. Et je ne me suis pas senti bien. Et je me rappelle avoir vu une pote au loin. Et c'était, en fait, je répondais aux questions mécaniquement en regardant cette pote et en me disant, si j'arrive là-bas, c'est fini, quoi, je me pose. Et très vite, on s'est fait paparazzier. On a vu les gens qui voulaient nous prendre des photos dans la rue. Donc ça, au début, ça a été très étrange. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors, dont Clarins, qui a été mon sponsor historique pendant 6 ans, pendant toute ma carrière. Et là, j'ai compris qu'il y avait une vraie chance aussi, qu'en natation, on n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir en profiter quand on peut en avoir. Et j'ai commencé à essayer de gérer cette image-là. Et puis l'avantage, c'était que l'image que les médias me donnaient était vraiment la mienne. Donc, quelqu'un de plutôt cool, qui aimait le sport en général Et bon, après, ils m'ont mis une étiquette de beau gosse et tout. Il y a pire à vivre, c'était cool. Mais voilà, ça, j'ai su en jouer aussi. Mais ça n'a pas été. Il y a eu un moment d'adaptation et après, ça a été plutôt cool.
Ouais, ouais, mais ça ne doit pas être évident parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que tu passes pas inaperçu, quoi. Et en fait, quand on va te demander une fois un autographe, nous, enfin, à l'extérieur, on a une photo. Maintenant, c'est les selfies, les autographes, c'est même plus tellement fond. Mais on va te demander une fois, tu as l'impression que c'est une fois, sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est une fois toutes les. Enfin, quand dans la
c'est
rue.
Ça. Ouais, bah, surtout quand ça commence, quoi. Ça ne s'arrête plus après. Mais après, je joue assez oui. Le jeu des selfies parce que les gens sont gentils. Voilà. Oui. Si on me dit bonjour, excusez-moi, merci, à partir de là, c'est sûr qu'il y a peu de chances que je refuse, à part si j'ai mon fils en pleurs dans les bras ou que voilà. Mais vraiment, je joue le jeu si les gens sont polis et sympathiques. Et pour 99% des cas, c'est le cas. Donc voilà, c'est super cool.
Ouais. Et alors,
c'est aussi... pas ce que je préfère, mais je comprends qu'il faut le faire.
Ouais, c'est clair. Mais justement, en fait, cette bonne image, aujourd'hui, tu l'as encore, puisqu'aujourd'hui, tu es, entre autres, consultant pour France Télévisions pour les compétitions de natation. J'ai l'impression que tu t'éclates dans ce rôle, parce qu'on sent, ton plaisir d'apporter tes connaissances sur la natation. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai vu il n'y a pas longtemps, sur Insta, tu as mis une photo avec les jeunes athlètes qui venaient d'être médaillés, et tu as dit, putain, je suis super content de faire la photo avec eux, quoi.
Ouais, je leur ai demandé une photo sur le bord d'une piscine. Ça fait des années que je n'avais pas demandé à faire une photo. C'était plutôt le contraire.
C'est ça.
Et ouais, j'adore parce que déjà, l'équipe de France m'aide beaucoup parce que on a une équipe de France qui est vraiment très prometteuse, qui est en train d'éclater, qui est en train de vraiment de prendre en maturité. Il y a eu un petit creux après notre génération et là, ils ont vraiment pris, ils ont grandi. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Au championnat du monde, il y a eu des médailles. Au championnat d'Europe, ils ont aussi fait une très belle performance. Donc ouais, moi, la natation, c'est un sport que j'adore, qui m'a tellement donné. Donc avoir la chance de pouvoir le partager au plus grand nombre, c'est d'essayer de le vulgariser un petit peu. C'est vraiment un super plaisir et j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc merci pour ceux qui ont des retours négatifs de ne pas me les avoir envoyés. Donc voilà, j'ai tous ces retours positifs où ils me disent c'est trop bien, on a un peu l'envers du décor et puis on sent que tu respectes vraiment les sportifs. C'est vraiment ce que je suis et c'est vraiment ce que j'ai envie de dégager et je me régale de commenter leurs exploits et j'ai hâte d'en commenter d'autres.
C'est clair. Alors justement, Paris 2024 arrive. Qu'est-ce que tu penses de ces Jeux en France? Toi, tu n'as pas fait de Jeux en France.
Non.
Des grands championnats non plus. Il ne me semble pas qu'il y ait des championnats du monde. Hein, ni championnats
non plus. Non, le plus près, ça a été Barcelone.
Oui, voilà. Donc, ouais. Tu aurais aimé, j'imagine.
Ah, ça aurait. Une des plus grandes déceptions hors natation dans ma carrière, c'est quand ils annoncent que les Jeux sont à Londres et pas à Paris pour 2012.
2012, oui.
Ah ouais, c'est. Il y a eu vraiment une semaine de battement quand on a appris ça à l'entraînement où on était vraiment triste, quoi. Parce que ça aurait pu être un moment extraordinaire. Enfin, en plus, nous, on était à fond dedans. Donc voilà, mais là, ça va être 2024. Donc je me dis qu'ils ont beaucoup de chance et en tout cas chez dans la natation, pardon, ils savent qu'ils ont beaucoup de chance.
Ouais.
Et ça, c'est cool parce qu'il y en a, on peut entendre, ça peut être une pression supplémentaire, ça peut être ci et tout. Non, c'est un kiff de ouf, quoi. Ouais. Il faut vraiment profiter de ces moments-là et avoir tout un public à qui à sa cause, ça va être dingue. Donc, tout un public, toute une ville, tout un pays, ça va être extraordinaire. Donc, voilà, il faut que tous les sportifs le prennent du bon côté et en disant que ça va être un plus pour chacun d'eux. Et moi, j'ai juste hâte de voir. J'adore la façon dont est organisé ces jeux, très ouvert à tout le monde. J'aime beaucoup ce que la France aussi. Alors, je parle pas beaucoup de politique, mais ce qui se passe en ce moment avec le sport, c'est vraiment intéressant. Niveau piscine, il y a beaucoup de bassins qui sont installés, des bassins montables et démontables pour apprendre à nager aux enfants, surtout dans des quartiers défavorisés. Il y a vraiment des structures pour le savoir nager qui sont en train de se monter. Et je sais que c'est partout dans tous les sports. Donc, avant de faire des champions, il faut qu'on ait vraiment une base de sport. Et je trouve que... Alors, il y a plein de choses à reprocher à l'État. Et là-dedans, je ne rentrerai pas dans les débats. Mais par contre, niveau sport, ils sont en train de faire vraiment un très grand travail qui aurait dû être fait depuis des années, mais au moins c'est en train d'être fait et là-dessus c'est bien. Voilà, y a pas que, on n'est pas en train de, que, de brosser dans le sens du poil les champions. Il y a vraiment tout depuis le commencement que ça part. Et là-dessus, on peut féliciter Paris 2024 parce que ça a mis un grand coup de nettoyage et c'est bien, ça évolue.
Ouais, c'est clair. Alors, il y a un point noir dans la natation. Tu as croisé quand même pas mal de champions étrangers qu'on a validé dopé, d'autres qu'on n'a pas validé dopé. Tu as pris des positions assez claires là-dessus. Comment tu l'as vécu? Je pense que c'était dur quand même de savoir que, enfin, tu ne sais jamais, mais tu as une grande suspicion négative sur certains sportifs.
C'était beaucoup de dopage d'État. Donc, ouais. Voilà, c'est les pays, on les connaît malheureusement, c'est des institutions qui dopent les sportifs. Après, en natation, c'est tellement complexe comme sport, il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu que je suis sûr que tous ces champions qui ont été dopés auraient quand même été des grands athlètes. Donc, c'est assez frustrant de... En fait, on avait pas de haine contre les personnes en elles-mêmes, mais oui. on avait vraiment beaucoup de colère contre ces institutions qui faisaient que cela existait, quoi. Je me rappelle de nageurs étrangers quand ils nous demandaient ce que nous on prenait et qu'on leur disait on prend du bon vin rouge et du Nutella au petit déjeuner, enfin du vin rouge le soir et du Nutella au petit déjeuner, ils ne croyaient pas et quand ils comprenaient qu'on se dopait vraiment pas. J'ai eu des gens qui sont mis à pleurer dans mes bras parce qu'ils ont capté qu'en fait leur performance n'était pas forcément la leur et en fait voilà, les athlètes c'est les premiers à être grisés par ça, ils n'ont pas le choix et ils sont dans une structure qui fait qu'ils sont obligés de le faire, mais ouais, par contre dès qu'il y a quelqu'un qui est pris de dopage, je pense que les sanctions devraient être plus grandes, plus fortes et que ces nations devraient être bannies pour que ça s'arrête, parce que c'est pas ça les valeurs du sport. En vérité, les valeurs du sport, c'est pas la victoire ou c'est pas la défaite, c'est tout le parcours qu'il y a derrière, c'est toutes les valeurs que ça dégage et ce dopage, ça en fait pas partie. Et puis même aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont encore à la télé alors qu'ils ont été qu'ils ont bafoué le sport et qui, voilà, pour moi ça me fait un peu mal au ventre. C'est pas la personne en elle-même, mais c'est ce qu'elle dégage, machin, qui aujourd'hui, ça me fait, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise.
Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas simple à gérer, comme tu dis, des fois, tu rentres dans le tunnel, quoi, et en fait, ils se rendent même pas compte. Tant qu'ils sont pas sortis de leur pays, souvent, ils savent pas, quoi. Ils sont pas au courant.
C'est vrai, c'est très triste, mais il y a d'autres trucs où, enfin, pour moi, en fait, faut savoir que le dopage, une fois qu'on est dopé, les performances sont changées à vie, même si on arrête le produit.
Oui.
Et il y a des études qui ont été faites. Enfin, pour ceux qui font un peu de sport, si on a un max à 100 kg développé couché, il y en a qui se dopent, ils sont à 130, ils arrêtent le produit, ils sont à 120. Donc en fait, ils ont peut-être perdu 10 kg, mais ils ont gagné 20 kg par rapport à leur max de départ. Et ça, pour moi, une fois qu'on est dopé, on devrait pas avoir le droit à une deuxième chance selon les produits qui ont été utilisés, parce que à partir de là, la performance allait changer. Et il y a une seule chose sur laquelle on n'a pas le droit de tricher, qu'on n'a pas le droit de deuxième chance, c'est ça, c'est... Parce qu'en fait, on bafoue toutes les valeurs du sport, quoi. On respecte plus rien et à partir de là, pour moi, on ne devrait pas avoir droit à une deuxième chance.
Bah oui, à un moment, il faut être un peu...
Si on ne respecte pas le, si on respecte sinon, pas après, le truc...
On slalome un peu. Alors, moi, j'aime bien slalomer, mais quand même.
Ouais, ça dépend sur les pistes.
Voilà, ça dépend sur quelle piste. Bon, on n'arrive pas loin de la fin du podcast déjà. C'était passionnant. J'ai encore trois petites rubriques, si ça te va. Je vais te dire un mot et en fait il faut que tu me dises à quoi ça te fait penser tout de suite, assez vite.
D'accord.
Okay. Oh, c'est facile, hein, t'en fais pas, c'est pas facile. Piscine.
C'est pas si facile. Piscine, ça me fait penser à plein de choses, il y a plein d'émotions. Allez, je vais dire plaisir quand même.
Ouais. Médaille.
Effort.
Marseille.
Vélodrome.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, je trouve que ça représente beaucoup Marseille, le Vélodrome. C'est fou, c'est festif, mais à la fois c'est humain. Le Vélodrome, c'est des gens, ils peuvent être complètement cons, mais ils ont un cœur énorme et c'est un peu le Marseille. Ouais, c'est ça. On a envie de les détester, mais d'un côté, on a envie de les aimer aussi.
C'est aussi pour ça aussi que tu es revenu à Marseille, du coup ? T'habites
Ouais,
à
moi
Marseille?
je viens de m'installer à Marseille et oui, moi j'aime cette ville où quand on va faire des courses, il y a 10 personnes, même s'ils ne me reconnaissent pas, ils parlent à ma femme, ils parlent à mes enfants. Parce qu'à Marseille, on discute, parce que la vie, elle est cool et ça, j'adore cette philosophie.
Génial. Équipe de France.
Respect.
Paris 2024.
Rêve.
Natation.
Natation. Alors là, c'est dur de trouver un seul mot, mais je vais dire que c'est un sport qui fait qu'on est bien dans sa tête. C'est bien dans son corps et bien dans sa tête. Pas obligé de faire du haut niveau, mais ça met des vraies valeurs dans la tête. Pas comme tous les sports, mais celui-là, il est bien. On se retrouve un peu seul, on est aussi en équipe. Enfin, voilà, je le défends corps et âme.
A raison. Présent.
Présent, je vais dire heureux.
Papa.
Bah, heureux aussi, deux enfants magnifiques. Voilà, il y en a un qui est malade, donc c'est un peu sport, mais ouais, bah, c'est la plus grande joie que la vie puisse nous donner.
Avenir.
Avenir, bah, je vais dire objectif, parce que je pense que si on oublie de se mettre des objectifs à court et à moyen et à long terme. On perd un peu la passion de notre vie et donc voilà, alors j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses et ça faisait un petit moment que j'étais un peu reposé sur mes lauriers, ça fait du bien de me remettre un peu la tête dans le guidon pour repartir sur des nouveaux trucs.
Super. Alors, les deux dernières questions. La dernière, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie?
Alors, j'en ai plus vraiment, mais celle que j'avais avant, c'était être sérieux sans se prendre au sérieux. Je trouve qu'elle représente beaucoup de choses. Et sinon, celle que j'apprends à ma fille, alors c'est pas vraiment une devise, mais c'est d'être le plus feignant possible, mais d'en étant le plus intelligent possible. C'est-à-dire que d'utiliser tout le temps enfin, le temps qu'on a à disposition, mais le faire bien. C'est-à-dire que si je lui dis tu vas faire une demi-heure tes devoirs, bah, fais pendant une demi-heure, concentre-toi maximum et va pas perdre une demi-heure à faire n'importe quoi, parce que de toute façon tu seras dans ta chambre, autant bien les faire et essayer d'utiliser le temps qu'on a à faire les choses le mieux possible.
Malin, quoi.
Ouais, bah, je crois que c'est Bill Gates qui disait quand j'ai une tâche très difficile, je demande au plus feignant de le faire, parce que je suis sûr qu'il va trouver une façon facile de la réaliser. Et je trouve que c'est ça la vie en vrai. Et c'est ça le sport aussi.
Alors, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace?
Une belle trace, c'est un chemin de vie que quand on se retourne, on est fier de le regarder. Et qui évolue. C'est pas toujours pareil. Il y a des moments où c'est un peu brouillon, il y a des moments où c'est très propre et ça redevient brouillon et ça redevient encore plus beau. Et quand on se retourne et qu'on voit un peu, bah même où il y a des chutes sur des traces et on se dit, ah ben là on est tombé, on a su se relever, on est reparti. Et que voilà, les dernières traces sont plus belles que celles qu'il y a en eau, c'est-à-dire qu'on est devenu une meilleure personne, qu'on a grandi, qu'on a mûri. Et pour moi, c'est ça une belle trace.
Bah écoute, super, merci.
Bah, merci à toi.
C'était très passionnant et très intéressant et très clair. Donc, merci beaucoup pour ce partage.
Avec plaisir. À
Merci,
bientôt.
salut Camille.
Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.